Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver sur CFM Radio 90.2, l'heure du Carillon, une émission où des chrétiens de Villefranche et des environs aiment à parler de leur vie et de la vie du monde. Aujourd'hui, notre émission est un peu particulière parce que nous allons aborder une question d'église, de communauté chrétienne, de ce qui nous fait vivre. Nous avons, en ce début d'année, plusieurs changements qui s'opèrent dans nos communautés, parmi les prêtres, chez les religieuses. Et donc, autour de la table, il y a...
Émilie, que vous me connaissez bien, puisque je fais partie des animateurs de l'émission.
Il y a...
Leïla, religieuse de la Sainte Famille.
Et
le père Florent, donc nouvellement arrivé sur Villefranche de Rouergue.
Michel va nous rejoindre, mais vous connaissez aussi Michel, et puis moi, Didier, bien sûr, prêtre à Villeneuve. Donc, cette émission, c'est des changements pour construire l'avenir. Depuis 2 ans, dans l'église qui est à Rodez, donc dans le département qui correspond au diocèse, nous avons vécu un synode à la demande de notre évêque. Un synode, c'est un mot grec qui signifie « marcher ensemble ». Et nous avons essayé de marcher ensemble pour découvrir de nouveaux territoires ou explorer de nouveaux territoires. En effet, la structure de nos sociétés, de nos communautés, le temps d'aujourd'hui fait que les choses sont différentes et qu'il était très important de vivre non pas en retard sur ce temps, mais d'être bien adapté à la vie du temps. Alors, cela se sait partout, que l'on soit croyant ou pas, cela se sait, il y a moins de prêtres, de moins en moins de prêtres. Les églises vieillissent, les communautés vieillissent, il y a beaucoup de cheveux blancs, moins de jeunes, moins d'enfants au caté, moins d'enfants à l'aumônerie. Il y a tant de possibilités d'activité que, voilà, toutes ces questions sont au cœur de notre démarche. Il y a aussi des questions qui se posent non seulement dans les communautés chrétiennes paroissiales, mais dans les communautés religieuses. C'est pour ça que nous avons invité Leïla et que nous parlerons aussi du Carmel. Voilà, c'est tout cela que l'on veut mettre en route. Le thème du synode, c'était, et ça reste, disciple missionnaire. Alors, disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute un maître. Un maître de sagesse, un maître à penser. Nous, en l'occurrence, c'est disciple de Jésus qui nous a laissé un message que l'on lit dans l'Évangile et dont on essaye de vivre aujourd'hui à sa suite. Et missionnaire, c'est parce que, eh bien, ce message est tellement beau et nous semble tellement important pour l'humanité qu'on ne veut pas le garder pour soi. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de chercher à récupérer. On n'est pas des marchands de quoi que ce soit, on n'est pas des représentants de commerce, mais on est missionnaire parce que ce message, on veut le partager avec d'autres, tant il est un message de vie et d'amour. Le synode, c'est tout cela. Alors, face à ces réalités, eh bien, il fallait bien essayer d'organiser la vie de l'Église autrement. Vous l'avez appris, il y a plusieurs débuts d'année, dans une année civile, il y a plusieurs débuts d'année, et septembre marque le début de l'année scolaire, bien sûr, mais aussi d'une année pastorale, et donc une année où il y a eu des changements. Alors, ici, vous avez connu, parce que vous l'avez entendu sur cette antenne, vous avez connu Daniel Bobby, le père Daniel Bobby, qui est devenu l'adjoint direct de l'évêque dans le diocèse de Rodez, et est arrivé Florent. Et c'est pour ça que maintenant, je demande à Florent s'il veut bien se présenter.
Oui, donc moi, je m'appelle Florent, je suis originaire de Vendée, et puis j'ai vécu toute ma vie jusqu'à l'âge de 28-29 ans en Vendée, en travaillant en tant que responsable et achat et des ventes dans une entreprise. Et puis un jour, j'ai eu envie de changer d'air. Et après un temps de réflexion, je suis parti faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et c'est là que la question de Dieu, la présence de Dieu est revenue dans ma vie et que j'ai eu envie de continuer ma vie avec lui. Et c'est dans ce chemin-là que je me suis engagé et que ce chemin m'a amené tout doucement en Aveyron pour me mettre au service des pèlerins. Et puis, la question de la vocation, pour moi, s'est posée. C'est comme ça que je suis entré au séminaire à Toulouse. J'ai passé quelques années au séminaire à Toulouse et puis mon évêque m'a envoyé sur Millau il y a 7-8 ans. Et j'y ai passé 7-8 années dans la paroisse de Millau et puis les environs. Et au mois de mai, il m'a proposé de venir à Villefranche pour me mettre au service de la communauté de Villefranche et des environs.
Voilà, alors Florent, pour ceux qui nous écoutent, le séminaire, si vous voulez, ce sont les études supérieures spécifiques qui préparent un jeune à devenir prêtre, voilà, où on fait...
Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est une école qui forme pour être prêtre, dans lequel il y a des temps de formation sur la Bible, sur la liturgie, sur la question de Dieu. Ça dure 7 ans. Les 2 premières années sont principalement sur la philosophie, et les 3 années qui suivent sont plutôt sur la théologie, c'est-à-dire la connaissance de Dieu et puis des écrits de la Bible. Et puis la dernière année est une année d'exercice pastoral où on relie un petit peu nos premiers pas dans le ministère.
C'est un comme pour les médecins.
Oui, voilà, c'est-à-dire que les médecins s'occupent du corps et nous on s'occupe de l'âme.
Voilà. Mais l'un va avec l'autre.
Et parce oui, que je crois.
Et alors, tu disais le mot vocation. Alors, c'est un mot, j'aime bien le préciser aussi, parce que pour les gens, vocation, c'est uniquement devenir prêtre. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Nous sommes nés tous avec un désir qui grandit au fur et à mesure de nos rencontres, de notre formation affective, notre formation humaine, de notre formation physique, de notre formation intellectuelle. Eh bien, la vocation, c'est suivre ce chemin et vouloir toujours le vivre. Alors pour nous, c'est vivre ce chemin, mais sous le regard de Dieu, avec lui. Donc c'est pour ça que la première vocation pour un chrétien, c'est celle de son baptême. Et ensuite, eh bien, suivant son chemin de vie, il devient père de famille, marié, il devient religieux, religieuse, il devient prêtre ou autre chose. Voilà, la vocation, c'est notre devenir sous le regard de Dieu de façon un peu large. Voilà, qu'est-ce que Dieu attend de moi et comment je vais essayer de lui répondre ? Si tu es d'accord avec ça.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ça, et puis il y a le fait aussi de sentir que Dieu nous appelle à ça. Je pense pas que naturellement c'est quelque chose qu'on peut se poser, mais je pense que c'est aussi profondément quelque chose dans lequel on sent que Dieu nous appelle. Et dans lequel ça va être un chemin de bonheur, en tous les cas.
Ouais. Et puis de toute façon, la vocation, mais c'est comme dans le mariage, c'est une question de rencontre. De rencontre
tout à fait,
et
ouais.
De réponse à une rencontre. Alors maintenant... Tu es avec nous, Leïla, aussi, tu veux nous parler un petit peu de toi. Après, on parlera plus davantage de ce que tu fais, de ta congrégation, comme on parlera davantage de la mission de Florent ici.
Donc, Leïla, je suis libanaise. Je pense que mon accent me trahit. Je suis religieuse depuis 36 ans, à la Sainte Famille. C'est là que j'ai trouvé le chemin où vraiment je peux être heureuse avec le Seigneur et avec les autres. Et je suis en France depuis 12 ans. J'ai été appelée en France aussi pendant un chapitre, disons, une réunion de religieuses. Et dans cette réunion, j'ai été élue pour une fonction à la Sainte Famille, pour une mission spéciale. J'en parlerai tout à l'heure, je pense. Voilà, donc ça fait 12 ans que je suis à Villefranche. Je vis en église, mais aussi dans ma communauté, au service de la mission de la congrégation.
Voilà, mais je te remercie, Leïla. Alors, Michel vient de nous rejoindre. Alors, Michel regarde ça.
Bonjour, Michel.
Bonjour, Michel.
C'est gentil, bonjour à tout le monde.
On a un peu d'avance, mais voilà, en l'enregistrement. Donc, si vous voulez, on vient de parler de ce chemin de bonheur à la suite de Dieu. Et je vais vous proposer une première plage musicale. Comme ça, ça permettra à Michel de bien se mettre en place, entre autres. Une première plage musicale, des moines de Tamier. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Écoutez ça, voilà, c'est un peu le chemin que tous, à notre manière, nous essayons de suivre.
Si tu m'ouvres ton cœur, Je vais te conduire au désert et parler à ton cœur. Et tu me répondras comme au jour de ta jeunesse.
Voilà donc, nous sommes de nouveau autour de cette table et ce coup-ci nous sommes tous présents et nous sommes ravis d'avoir accueilli Michel. Donc je vous disais que c'était un nouveau départ dans l'année pastorale comme dans l'année scolaire, un nouveau départ avec des orientations voulues par notre évêque suite au synode et à cette longue réflexion qui s'est menée pendant 2 ans avec quelques 200 chrétiens du diocèse pour prendre des axes, se donner un peu des axes et aller vers davantage de fraternité, aussi bien dans nos communautés locales que dans nos communautés entre prêtres. Davantage de fraternité pour se soutenir. Et être solidaire, c'est vouloir continuer d'avancer ensemble. Et pour cela, Florent a donc été appelé par l'évêque et nommé ici à Villefranche à la suite de Daniel. Alors, Florent va nous dire comment il a reçu un peu cet appel, la manière d'y répondre et ce qu'il envisage avec nous pour l'avenir.
Oui, lorsque l'évêque m'a appelé à cette responsabilité, il m'a bien laissé entendre que derrière cet appel, il y avait la dimension d'une vie fraternelle entre prêtres. Auparavant, si je caricature un peu, le prêtre était dans sa paroisse avec sa communauté chrétienne et n'avait pas beaucoup de liens avec les autres confrères prêtres, si ce n'est une ou deux fois par an et quelques fois. Mais là, l'idée, c'est vraiment qu'il y a un travail ensemble et une vie fraternelle qui se vivent ensemble entre prêtres d'un même doyenné. Donc, pour vivre ensemble la vie fraternelle, il faut des choses assez simples. La première, c'est eh bien des repas, des temps conviviaux qu'on vit ensemble. C'est la prière aussi ensemble. C'est aussi porter ensemble la charge pastorale qui nous est confiée. Plutôt qu'être chacun dans son secteur, eh bien, je dirais qu'on est tous ensemble à porter la responsabilité de tout un doyenné, avec chacun particulièrement sur un lieu, mais ensemble on partage. Donc du coup, lorsqu'on a des soucis, lorsqu'on a des interrogations, on les partage entre nous pour voir ensemble quelles solutions prendre. Voilà un petit peu ce que je peux dire en quelques mots.
Pardon, Florent, tu parles de doyenné par rapport à une paroisse. C'est quoi le doyenné dans notre diocèse?
Alors, le doyenné, c'est un secteur un peu plus grand. Bon, nous, le doyenné du Villefranchois, il comprend 6 paroisses. Alors, en termes géographiques, je dirais que ça prend Najac, ça prend La Fouillade, ça prend le secteur de Rieux-Pérou, Rignac, Montbazin, Villeneuve, et puis le secteur de Vailloul, Monteil. Voilà un peu le secteur du doyenné dans lequel nous sommes actuellement, et nous sommes 6 prêtres actuellement dans ce doyenné.
Alors, c'est vrai, ce que dit Florent, il a donné un petit peu les limites du doyenné du Villefranchois. Et dans le diocèse, aujourd'hui, il y a 8 doyennés. 8 doyennés, c'est justement pour resserrer un peu ces liens et permettre une fraternité de proximité. Alors, on me dirait de Rignac à Najac, on peut pas trop parler de proximité. Mais Villefranche reste le point central, d'où l'an passé l'inauguration et la construction de cette maison paroissiale qui est celle du doyenné. Alors bien sûr, les prêtres, les 2 qui sont sur Villefranche et qui assurent le service plus particulier de 2 paroisses, habitent dans cette maison, mais cette maison a une dimension plus large, tu es d'accord avec moi, qui est celle du doyenné.
Oui, et c'est vraiment le lieu du travail ensemble. Auparavant, le presbytère, c'était le lieu où habitait le prêtre. Si on a changé d'appellation et qu'on est passé à maison paroissiale, vous voyez bien qu'une maison, c'est là où vit une famille. Et donc, du coup, on retrouve toutes les identités des chrétiens, des réunions pour la comptabilité, des réunions pour le service des préparations au baptême, un accueil et aussi, bien sûr, le lieu de vie des prêtres. Mais du coup, on est vraiment sur un lieu qui se veut un lieu où ça fourmille, entre guillemets, où il y a de la vie, et on va, on vient, et on a tout type de réunions, en fait.
Je rappelle à ceux qui nous rejoindraient maintenant que nous sommes sur CFM Radio 90.2, l'heure du carillon, et donc nous parlions un petit peu de ces changements, nous parlons de ces changements, de ces mises en place de nouvelles structures pour répondre aux défis du temps. Alors, Florent expliquait là à l'instant tout ce qui se passe. Par exemple, voyez, moi je suis prêtre davantage en charge de Villeneuve, mais j'ai la clé de la maison paroissiale. Un détail, mais pour signifier que c'est la maison commune. Et dans chaque paroisse, on aimerait réaliser comme ça un espace qui soit une maison commune de rassemblement, de convivialité et de mise en œuvre aussi d'action pastorale, mais aussi de fraternité, de convivialité. Une autre chose dite par Florence, ça va vous paraître un détail. J'arrive d'une autre paroisse, j'ai de la famille ci ou là. Si dans le doyenné, le confrère de La Fouillade me dit « Tiens, je suis pas là, va faire un baptême chez moi. Est-ce que tu acceptes de baptiser ou de marier dans ma paroisse ?» L'année dernière, jusqu'à ce 1er septembre, il fallait qu'il me signe une délégation pour que j'aille baptiser dans sa paroisse. Ça se faisait systématiquement. C'est pas un si petit détail que cela. Ça signifie un peu le changement de perspective. Aujourd'hui, je peux aller baptiser ici ou marier à la collégiale, à Villeneuve, à Rignac, à, voilà. Pour vous dire un peu que on veut vivre dans une équipe solidaire. Et Florent a été nommé, en plus de cette charge, il a été nommé au titre de cette équipe.
Oui, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui ai la charge d'animer un peu d'équipe des prêtres. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on se réunit tous les 15 jours pour partager un peu ensemble les différentes choses qui nous habitent, les différentes réalités et les différentes problématiques. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on porte ensemble les responsabilités. Plutôt qu'être tout seul, comme je le disais tout à l'heure, on est ensemble et ensemble, on essaye de trouver des solutions pour justement tracer un chemin, en fait, hein, sur l'avenir de notre Église.
Et ensemble, on est plus fort.
Oui, tout à fait.
Mais c'est une nécessité justement, c'est ce qu'on peut apprécier chez notre évêque, c'est qu'il a su mettre en place cette nouvelle structure qui est une nécessité, tout évolue, et compte tenu qu'il y a moins de prêtres, c'est ainsi, eh bien cette adaptation se fait par un nouvel émaillage géographique. Et de donner des responsabilités comme ça vient de l'être, avec des possibilités qui n'existaient pas auparavant, même s'ils ne sont pas d'une grande importance. Tu viens de le dire, Didier, c'est quand même intéressant pour tout le monde, pour vous, et puis aussi pour les paroissiens qui se sentent chez eux, dans la maison paroissiale, plutôt que comme c'était auparavant.
Et puis, pour rebondir, c'est vrai qu'on est moins nombreux en tant que prêtres, mais aussi, ça laisse un espace pour que des chrétiens puissent s'investir. C'est pas le prêtre qui a forcément le plus grand charisme pour faire la catéchèse aux enfants, pour l'animation liturgique, c'est pareil, et pour plein d'autres choses. Et du coup, ça permet à des chrétiens de pouvoir vraiment s'investir réellement avec les charismes qui sont les leurs. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, quoi, qui fait vraiment apparaître le fait que le chrétien n'est pas simplement celui qui écoute, mais c'est celui aussi qui s'engage dans le monde et dans l'Église pour porter pleinement sa vocation chrétienne.
Oui, pardon, excuse-moi Michel, tu voulais parler ?
Non. Oui,
oui, je veux rebondir sur ce que tu dis, Florent, qui me paraît capital. C'est vrai que on déplore le manque de prêtres, mais d'un autre côté, c'est quelque part une chance, entre guillemets, parce que ça oblige les laïcs à vivre leur baptême vraiment. Et à s'investir, à s'impliquer dans la vie de la paroisse. Et bon, en plus d'être formés, parce que c'est vrai qu'on parle de la formation aussi des laïcs, et je crois que c'est important.
Oui, ils peuvent s'exprimer ainsi, justement, les dons qui sont donnés au Seigneur à chacun. Autrement, il ne sait pas qu'il soit étouffé, mais c'est beaucoup moins pyramidal de cette façon-là. C'est beaucoup plus le partage dans la façon de s'exprimer. Le partage, il est partout. Hein.
D'ailleurs, je reviens à quand vous entendrez cette émission, il y aura presque un mois, c'était le 17 septembre, que l'évêque est venu installer justement l'équipe de prêtres. L'équipe de prêtres au service du doyenné, avec Florent comme animateur, coordinateur de cette équipe. Voilà. Donc il est venu, on était tous là à la collégiale, avec un nombre important de gens. Et en même temps, l'évêque a envoyé pour chacune des paroisses les membres des équipes d'animation paroissiale ou pastorale, peu importe. C'est les membres des équipes d'animation dans chaque paroisse. Il les a envoyés pour dire « Voilà des personnes à qui j'ai donné une lettre de mission, l'évêque donne une lettre de mission, à qui j'ai donné une lettre de mission, pour porter avec le prêtre la charge pastorale. » Donc c'est important. Pour marquer que c'est très important. Il n'y a pas eu simplement l'envoi de quelques prêtres en disant « Florent, je t'envoie comme ça, Didier, je t'envoie comme ça ». Non, non, il y a eu cet envoi et l'envoi de ces équipes. Je ne sais pas, vous l'avez vécu, vous y étiez.
Voilà. Oui, je l'ai vécu.
Je sens que ça sonne église, ça sonne rassemblement. C'est les prêtres avec l'évêque. Il y a les prêtres, il y a les laïcs, il y a ensemble en église et chacun selon son charisme, comme a dit Michel. Voilà, on met ensemble les divers charismes, les divers dons de chacun pour une vie ecclésiale, une vie de famille. C'est la famille de l'Église, la famille chrétienne.
Alors, le mot Église, c'est vrai que ça peut paraître, parce que vous savez, l'Église, on peut l'écrire avec un petit E. Si je parle de la collégiale, c'est une belle Église avec un petit E. Et si je parle du rassemblement d'Église à la collégiale, je l'écris avec un grand E. Église, c'est un mot qui signifie un peuple convoqué et rassemblé. Et ce peuple convoqué et rassemblé par le Seigneur se rassemble dans un bâtiment de pierre. Voilà. Donc, mais au départ, c'est bien une notion de peuple. On fait pas église tout seul. C'est bien une notion de peuple rassemblé, de frères qui veulent marcher ensemble. Chacun, on est tous différents de cœur et de visage, mais chacun, on est marqué par l'amour. L'amour qui nous vient de Dieu, et que l'on veut vivre. Alors, je vous propose une autre plage musicale. Je crois que je me trompe pas, parce que j'ai donné les disques tout à l'heure. Oui, c'est celle-là. Très bien. Voilà, il me montre. Notre preneur de son me montre. Donc, c'est une chorale d'enfants qui chante un chant des Beatles que vous connaissez bien. On a tous besoin d'amour. écoutez sur CFM Radio 90.2, une émission qui est d'ailleurs diffusée à Figeac sur Radio Présence. Et nous sommes cinq autour de cette table pour vous parler un petit peu de ces changements qui arrivent en ce début d'année et de ces perspectives nouvelles dans nos communautés chrétiennes, qu'elles soient paroissiales ou religieuses. Et donc, au moment où nous enregistrons cette émission, les sœurs du Carmel de Villefranche se prépare à partir. Et quand vous entendrez cette émission, eh bien le Carmel sera vide des religieuses qui étaient là. J'ai demandé à Émilie de parler un petit peu de ce qu'était le Carmel, de ce qu'il fut, de ce qu'elle est, de sa mission aujourd'hui. Et je sais que Michel prépare aussi un article qui sera paru quand l'émission passera à la radio. Tu as préparé un article pour le Villefranchois, je crois. Hein ?
Oui, c'est ça, oui.
Oui, c'est ça. Donc, voilà, on va parler un peu de ce Carmel, mais qui est un lien aussi avec ce dont nous parlerons en dernière partie d'émission, avec la Sainte Famille et Émilie de Roda. Alors, voilà,
oui,
je
t'écoute.
Oui, parce
que Émilie de Roda est à l'origine de l'arrivée des Carmélites, de la fondation du Carmel à Villefranche, puisqu'elle voulait que sa congrégation naissante, elle voulait un soutien pour sa congrégation naissante, donc de la Sainte Famille, et elle a fait appel à un petit groupe de Carmélites qui venaient de Montauban, qui sont arrivées donc en octobre 1844. Elles étaient un tout petit groupe et elles se sont installées au départ dans la rue La Peyrade, que vous connaissez sans doute, les Villefranchois. Et ensuite, quelques années plus tard, donc le Carmel actuel a été construit. Et chose extraordinaire, la construction n'a pris que 2 ans. Parce que je crois que beaucoup de Villefranchois ont soutenu cette construction. Voilà, donc nos Carmélites, elles ont été très peu nombreuses, hein, une vingtaine maximum de 20 carmélites, je
mais
crois,
voulu,
hein, Michel,
hein.
C'était voulu. Elles n'étaient pas très nombreuses. Et en tout, il en est passé combien au Carmel? 80 peut-être, je ne sais pas.
Oui, c'est ça, je crois qu'un petit peu plus de 80,
ça.
Oui.
Voilà. Donc, au départ, ça a été difficile, hein. Elles ont fait appel à des carmélites de Montauban et puis de Figeac aussi. Et donc là, bon, pourquoi elles ont dû partir? Parce qu'elles étaient âgées et puis très peu nombreuses, trop peu nombreuses pour qu'un Carmel puisse subsister. Donc, mais elles ont beaucoup marqué notre territoire villefranchois parce qu'elles étaient très aimées. Elles vivaient de leur travail, du jardinage. Elles faisaient des travaux de couture.
Les hosties.
Oui, elle fabriquait, c'était les carmélites qui fabriquaient les hosties aussi.
Et alors, la vie d'une carmélite, c'est quoi alors exactement?
Le travail et la prière. Beaucoup, beaucoup de temps de prière. Eh bien, on se dit, mais j'entends parfois des personnes dire, mais ça sert à quoi une carmélite s'est reclue dans son carmel, ça sert à quoi? Ça sert à beaucoup. Elle prie. Elle prie pour le monde, elles sont au courant de tout ce qui se passe dans le monde, mais même si elles sont en retrait, elles sont au courant de tout ce qui se vit, tout ce qui se passe dans le monde, parce qu'elles ont quand même des contacts, hein, avec des personnes extérieures. Et elles prient. Ce que nous, on n'a pas forcément toujours le temps de faire, ou parce qu'on se trouve toujours quelque chose de plus intéressant à faire, mais elles le font pour nous, elles nous soutiennent de leurs prières.
C'est-à-dire qu'elles arrivent à vivre ce qu'on a du mal, nous, à vivre dans notre vie beaucoup trop turbulente. Le silence permet un cœur à cœur avec le Seigneur. Comme nous sommes des enfants du Seigneur, eh bien, si on veut retrouver notre Père des cieux et tout le monde là-haut, eh bien, ça passe aussi par une relation beaucoup plus posée que nous pouvons avoir, nous, dans nos vies. Alors, c'était une protection pour Villefranche. Et c'était reconnu même par les gens qui semblaient ne pas être trop intéressés par la religion. Ça, c'est chacun son chemin. Mais c'est les religieuses du Carmel ont marqué l'histoire de Villefranche et c'est sûr qu'elles vont manquer.
Je crois qu'au début, mais Leïla le sait mieux que moi, je crois avoir lu quelque part que, donc bien sûr, au départ, Sainte Émilie, quand elle a fondé la Sainte Famille, on a fêté les 200 ans l'an passé, là, elle a voulu que sa congrégation ait une partie pastorale, c'est-à-dire tournée vers les gens et les activités d'un chacun, et puis une partie contemplative. Et au bout d'un moment, elle s'est aperçue que c'était difficilement conciliable, sous le même toit, d'avoir et des sœurs cloîtrées, donc carmélites ou autres, des sœurs de ce style-là, cloîtrées, uniquement données à la prière Et puis des œuvres, des sœurs plus données aux œuvres. Et donc c'est là qu'elle s'est aperçue que c'était pas possible. Elle a fait le choix de garder les œuvres, les écoles et tout ça. C'est bien ça.
L'arrêt des maisons cloîtrées est venu après Sainte-Émilie, mais il y a eu déjà beaucoup de questions de son temps. Elle a maintenu les deux branches, mais son objectif au départ, c'était l'éducation. C'était pas la vie des carmélites, c'était une autre vocation, une autre manière de vivre. Mais pour elle, la clôture, le silence, était pour aider les sœurs à vivre cet enracinement en Jésus-Christ, dans sa parole, pour pouvoir vivre leur mission, voilà, qu'elles ne soient pas seulement des choses à faire, mais ancrées en Jésus-Christ. C'est dans ce sens qu'elle voulait maintenir un peu la clôture, le silence, la vie de prière. Mais ce n'était pas la vie cloîtrée des carmélites qu'elle cherchait. C'était l'objectif, était la mission, mais une mission ancrée en Jésus-Christ. Voilà, dans ce cœur à cœur avec lui.
D'accord.
Mais après, quand c'est après Vatican II, c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment on a dit, on arrête de parler de maisons cloîtrées et de sœurs cloîtrées.
Ah oui.
Mais on a insisté, le chapitre général a insisté à ce que on maintient l'esprit contemplatif. Voilà, ce regard où on peut rencontrer Dieu chaque jour, dans le quotidien. Voilà, ça, c'est maintenu, même s'il n'y a pas des sœurs cloîtrées actuellement. Mais il y a toujours cet appel à la vie intime avec le Seigneur, à cet enracinement dans la parole de Dieu, dans la prière.
Et en ce sens-là, je pense que du coup, les carmélites étaient bien ce signe-là, du coup, de cette vie toute tournée vers le Seigneur, je pense.
Voilà. Ouais. Sainte-Émilie, elle aimait beaucoup le Carmel et elle voulait que la présence des carmélites à Villefranche, c'était pour elle, c'est comme une entraide, je pense, une entraide. Il y a les sœurs qui sont dans la mission active, dans la mission de l'éducation, c'était au départ la visite des malades. Et les carmélites, leur mission était la prière, de soutenir la mission des autres. D'ailleurs, la patronne des missionnaires, Sainte Thérèse de Lisieux, était une carmélite. Donc on peut être missionnaire tout en étant dans une vie intérieure. En soutenant, en ayant le cœur ouvert à la mission universelle.
Merci Leïla pour cette intervention qui est vraiment bien.
C'était le thème du pèlerinage à Saint-Igeste. Tu sais que tous les ans, le dernier dimanche de septembre, il y a un pèlerinage, c'était ça. Eh bien, on a pris le thème de notre synode, disciples missionnaires, et comment la petite Thérèse, tout en restant dans son Carmel, était disciple, je l'expliquais tout à l'heure, ce qui était un disciple, et en même temps missionnaire, c'est-à-dire tourné vers toutes les œuvres d'Église dans le monde pour que la bonne nouvelle soit entendue, reçue et vécue. Voilà, c'est ça, être missionnaire. Bon,
cette complémentarité est difficile à comprendre de nos jours parce qu'elle n'est pas connue. Et je trouve que, comme ça a été dit là, par Soeur Leïla, c'est vraiment magnifique parce que ça exprime bien ce qu'il en est de l'un et de l'autre, et comme ils s'interfèrent et se soutiennent.
Jusqu'à présent, la Sainte Famille, nous aimons garder toujours un lien avec les carmélites. Dans tous les pays où nous sommes, il y a un lien spécial entre les sœurs de la Sainte Famille et les sœurs carmélites. On va les visiter, on leur confie des intentions, voilà, on les écoute, on se rencontre.
La vie religieuse a été voulu, il y a eu toujours ces deux aspects de la vie religieuse dans l'Église, avec une vie religieuse pastorale tournée vers les œuvres et une vie contemplative. Alors, c'était, pour faire simple, deux grandes figures, c'était Saint Benoît, et c'était Saint Augustin. Voilà, c'est un peu les deux grandes figures qui ont voulu ces choses-là. Et Saint Benoît, parce que tu disais tout à l'heure, Florent, quel est le travail des...
Mais qui est Saint Benoît aussi?
Voilà, non. Oh, c'est un moine du 4e siècle qui a vécu en Italie. Voilà, non, mais on ne va pas refaire, parce que c'est trop long quand même.
Dis donc, Florent.
Qui est Saint Augustin?
C'est bien la question, parce que...
Parce que peut-être que les gens ne le savent pas.
Didier est une vraie bibliothèque, alors il peut répondre, c'est intéressant la question.
Ouais. Or, Saint Benoît, il a vécu donc à Monte Cassino, qui a été célèbre à la Deuxième Guerre mondiale par les ravages qu'il y a eu. Et il s'est retiré là avec quelques frères. Et la règle de ces quelques frères, dès le 4e siècle, ça a été justement ce qu'on dit en latin, hein, ora et labora, c'est-à-dire le service de l'œuvre de Dieu dans la prière et le labeur pour gagner ta vie. Voilà. Et donc on équilibrait sa vie.
Hein.
Voilà, exactement. Entre le travail et la prière. Donc ça, c'était la vie des moines qui vivaient ensemble. Saint Augustin, c'est pareil, mais à part que lui, il est, il a, il, il a été converti par Dieu grâce à l'intermédiaire de Saint Ambroise, qui était l'évêque de Milan, et il est reparti, il a été un évêque en Afrique du Nord, ce qui est aujourd'hui Annaba, qui était Hippone à l'époque, et donc là, il a lancé des communautés, ce qu'on veut vivre un peu aujourd'hui, finalement, des communautés de fraternité, où les prêtres se retrouvaient non seulement pour vivre ensemble, sous le même toit, manger ensemble, voilà, et puis partager, mais partager une vie pastorale à l'extérieur de la maison commune, et puis aussi prier ensemble, voilà. Donc, c'est pour ça que je parle à ces deux grandes figures, mais on pourra en parler plus longtemps. Et le Carmel, oui, c'était cette présence religieuse où finalement, on dit, prendre du temps pour Dieu, ou se laisser prendre par le temps de Dieu. Voilà, je crois que c'est ça. Se laisser prendre par le temps de Dieu. Nous, dans nos vies actives, souvent, on ne se laisse pas prendre par le temps de Dieu, tellement on a de choses à faire, et on a de bonnes raisons de les faire. Mais être carmélite contemplatif, c'est comme cela, c'est se laisser prendre par Dieu dans le temps, lui offrir notre vie pour la vie du monde. Alors je vous propose, comme petite plage musicale, je vous propose d'écouter justement un frère, Pierre Eliane, qui a mis en musique des poèmes de Saint Jean de la Croix. Alors Saint Jean de la Croix, il a vécu au XVIe siècle et il a vécu à proximité de Sainte Thérèse d'Avila qui a fondé le Carmel. Et il a fondé lui aussi les... Voilà, c'est là où il y a la branche féminine, les carmélites, et puis la branche masculine, les carmes, voilà, qui se sont réformés après, qu'on appelle des carmes des chauds. Ouais, tu vois, tu veux savoir des choses, Michel. Mais peu importe. Et donc, Saint Jean de la Croix était un poète, un spirituel. Il a écrit des textes, et ce prêtre, ce carme... Je sais pas s'il est prêtre, d'ailleurs. Je sais qu'il est frère Carme. Il est prêtre, tu crois?
Il est prêtre, je crois, oui.
Oui, j'en sais rien, moi. Donc, ce frère Carme a mis en musique des poèmes de Jean de la Croix, et on en écoute un maintenant.
Aux flammes d'amour vive, blesse tendrement mon âme en son intimité profonde. Si tu n'es plus rétive, achève maintenant, déchire la toile de cette rencontre. Suave blessure, aux délicieuses plaies, aux tendres mains, aux délicats touchés. Éternelle gageure, qui toute dette paie, tu as tué la mort, en vie tu l'as changée. Lumière de feu, dans vos vives lueurs, les profondes cavernes du sentiment. Naguère obscur et creux, par d'étranges faveurs, donne chaleur et lumière à l'amant. Délicatement.
Voilà, dernière étape de notre parcours sur les changements cette année, en ce début d'année pastorale, année scolaire. Et donc, nous sommes sur CFM Radio 90.2 et retransmis Radio Présence Figeac. Et maintenant, je vais donner la parole à Leïla, la sœur Leïla, parce que la Sainte Famille, après cette grande fête du 200e anniversaire, a vécu ce qu'on appelle en langage, alors je me mets à la place de Florent qui va me dire, c'est quoi ça? En langage ecclésiastique, un chapitre général. Ah, vous voyez, ça fait bien des mots, mais elle va nous expliquer ce que c'est et ce que ça amène aussi comme chemin d'avenir, parce que c'est ça qu'il faut voir, comme chemin d'avenir pour la congrégation. Alors, voilà, je te laisse, Leïla, vas-y, à toi.
Nous avons parlé de synode au niveau de l'Église diocésaine. Notre synode à nous, religieuse de la Sainte Famille, c'est le chapitre. Donc, c'est une réunion qui rassemble pendant 3 semaines des sœurs, délégués de tous les pays où nous sommes présentes, la Sainte Famille. Donc nous étions 43 sœurs, en parlant plusieurs langues. Et pendant ces rencontres de chapitres, on réfléchit, on relit un peu l'histoire passée de notre vécu pendant 6 ans, voir ce qui a marché, ce qui a été constructif, ce qui nous a aidés à grandir, à donner vie. Et à la lumière de ce passé, on regarde aussi les appels d'avenir, ce que l'Église nous dit, ce que les besoins autour de nous aussi, comment ils nous interpellent. Et voilà, on réfléchit ensemble sur voilà, comment nous pouvons continuer aujourd'hui à donner corps à ce que Sainte Émilie, qui est la fondatrice, que vous connaissez peut-être, Sainte Émilie a voulu. Elle a reçu, elle, de Dieu, un don, un charisme. On appelle une inspiration de voilà que faire vivre l'amour de Dieu autour d'elle, lui donner corps à travers des activités, l'éducation, la visite des malades, la visite des prisonniers, etc. Donc, comment aujourd'hui, quels sont les besoins qui aujourd'hui nous interpellent? À quel appel nous pouvons donner réponse avec nos réalités? Voilà. Et pendant le chapitre, donc c'est une expérience ecclésiale, parce que c'est au sein de l'Église que nous réfléchissons. C'est aussi une expérience fraternelle, où nous apprenons à prier ensemble, à réfléchir, à écouter, à discerner, pour prendre des décisions.
Leïla, voilà. tu disais donc la maison mère est à Villefranche, mais vous êtes présente dans quel pays dans le monde?
C'était ma question.
Nous sommes présentes actuellement dans 13 pays, donc qui va de l'Amérique latine, en Europe, en Afrique et en Asie. En Asie, il y a le Liban qui est le Proche-Orient tout près. Il y a les Philippines. Voilà. Et nous avons 2 sœurs indiennes que peut-être nous pensons que dans l'avenir proche, nous pourrons commencer aussi une communauté en Inde. Voilà, notre présence est assez dispersée.
Et vous êtes combien de sœurs au total dans la Sainte Famille alors?
Autour de 380 actuellement.
380. Et l'âge va de... La plus jeune, elle a quel âge?
La plus jeune professe, elle a 23 ans.
23
elle
ans.
Ouais. Première profession. Mm-hmm. Parce que là, les étapes, c'est... On passe à peu près 6-7 ans de formation. Donc il y a la première profession après le noviciat et ensuite on renouvelle. Au bout de 5-6 ans, on se donne entièrement, on dit le oui définitif, ce qu'on appelle la profession perpétuelle.
Ça vous laisse pas mal de temps pour réfléchir.
Voilà, et avec une formation, avec une expérience, avec de l'aide des autres aussi.
Alors quel est votre rôle principal? Qu'est-ce que vous amenez à ces pays où vous vous trouvez?
Qu'est-ce que nous amenons à ces pays? Dans chaque pays, c'est différent selon la réalité du pays, selon les appels, les besoins des pays. Par exemple, si je dis, il y a en Bolivie ou aux Philippines, il y a des foyers pour des enfants de la rue, des enfants qui viennent de familles en difficulté, ou bien des enfants qui n'ont pas de famille. Voilà, ils vivent dans cette communauté comme c'est leur maison. De là, ils vont à l'école, ils reviennent. On les aide pour leur formation, pour leur éducation scolaire, mais aussi pour toute l'éducation vitale et religieuse. Il y a dans d'autres pays, dans le médical, médico-social. On travaille beaucoup dans le médico-social. Et puis dans l'éducation, on continue l'inspiration première de Sainte Émilie. Voilà. Et il y a aussi des sœurs qui se consacrent un peu plus à la prière, sur les sœurs plus âgées ou plus malades. Mais toutes, nous avons cette vocation à la prière, comme je disais tout à l'heure, c'est la base. Et puis la vie fraternelle aussi. Sainte Émilie a voulu, dès le départ, que nous ayons des relations fraternelles, qu'on témoigne de l'unité, de l'esprit de famille. Quand elle a choisi le nom de la Sainte Famille pour ses sœurs, les sœurs de la Sainte Famille, c'est justement pour regarder la vie de Jésus, Marie, Joseph, à Nazareth, ce qu'ils ont vécu ensemble, cette simplicité, cette proximité des gens, là où ils sont.
Oui, c'est vrai que Leïla parle de la Sainte Famille, mais il y a plusieurs congrégations de la Sainte Famille. Alors nous, quand on parle de la Sainte Famille, si on se promène un peu dans le monde, on parle de la Sainte Famille de Villefranche et d'Émilie de Roda, parce qu'il y a plusieurs Saintes Familles. C'est étonnant d'ailleurs. Une fois, moi, j'étais en Afrique et il y a des sœurs qui me disent « D'où vous êtes ?» Et je dis « Mais je viens du coin de Villefranche de Rouergue. » Ah bon ? Elles me disent « Mais nous aussi, on est... » Alors je leur dis « Émilie de Roda. » Mais c'était des sœurs de... Voilà, je savais pas à l'époque. J'arrivais juste qu'il y avait des sœurs. C'était au Burkina, mais c'était des sœurs qui venaient faire des études d'infirmière et qui venaient de la Côte d'Ivoire d'à côté. Voilà. Hein. Donc, il y a des sœurs partout dans le monde, comme ça. Et comme dit Leïla, les écoles... les dispensaires, les centres médico-sociaux et l'accueil de jeunes pour qu'ils vivent des conditions autres que celles de la rue.
Actuellement, par exemple, avec la présence des migrants un peu partout, plusieurs de nos sœurs se sont données, elles prennent du temps pour l'écoute, pour l'accueil des migrants. Je vois, au Liban, même, il y a de nos sœurs qui vont en Syrie, même dans cette situation actuelle, pour former des jeunes pour l'animation catéchétique, pastorale aussi. Donc on essaye d'être sensible aussi aux besoins actuels pour répondre aujourd'hui à l'appel du Seigneur et du pauvre, de celui qui a besoin en ce moment-là.
Laurent voulait te poser une question.
Oui, parce que si j'ai bien compris, Leïla est la nouvelle responsable de la congrégation. Alors comment ça s'est passé ? C'est qu'il y a eu des discussions, l'ancienne reste pour un temps... Est-ce que c'est codifié tout ça dans la Sainte Famille ou est-ce que ça change Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
En principe, tous les 5 ans, avant c'était tous les 6 ans, mais maintenant c'est tous les 5 ans, il y a ce qu'on appelle donc le chapitre général, cette rencontre. Et cette rencontre de congrégation qui est la première autorité de la congrégation, même si je suis supérieure générale, j'obéis à ce que le chapitre a décidé. Ensemble, nous essayons de vivre ce que nous décidons ensemble en chapitre. Le chapitre, il y a une partie qu'on appelle le chapitre affaires, où on étudie un peu les questions actuelles et comment y répondre aujourd'hui. Et il y a une partie qu'on appelle chapitre d'élection. En fonction des besoins actuels, on essaie de voir quelles sont les personnes qui peuvent aujourd'hui répondre à ces défis actuels, à cette orientation de la congrégation. Et on donne plusieurs noms, dans un climat de prière et de silence pendant 3 jours, on réfléchit, on prie, et on essaie d'avancer dans un processus d'élection, pas du tout comme les élections au niveau du pays. Il n'y a pas de campagne électorale, au contraire, c'est dans un climat de prière. Et petit à petit, donc, on sent avancer des noms, des personnes qui peuvent porter la charge, mais pas ensemble, pas tout seul. C'est une responsabilité partagée. Donc, je suis élue supérieure générale de la congrégation, mais il y a aussi avec moi une équipe de 4 sœurs qu'on appelle conseillères, c'est notre jargon, les conseillères, et ensemble, à 5, nous réfléchissons, mais nous sommes à l'écoute de nos sœurs. Nous allons visiter nos sœurs dans les divers pays pour être à l'écoute des sœurs et des réalités dans lesquelles elles baignent, elles vivent. Et c'est de là qu'on les aide, on les encourage et on cherche les réponses pour aujourd'hui.
Moi, je voudrais donner un petit témoignage parce que les sœurs m'avaient demandé d'aller célébrer la messe justement pendant ces jours de silence. Et elles n'ont même pas la messe avec le reste de comme d'habitude, la messe paroissiale. C'était une messe particulière pour les sœurs réunies, donc, dans cette grande assemblée que l'on appelle chapitre. Et moi, j'ai été touché comme célébrant avec elles par cette cette qualité de silence et de désir d'écouter la volonté de Dieu. Parce que, sachant très bien les mots, ce qu'ils veulent dire, obéir, quand on dit il faut faire obéissance. Obéir, ça veut dire lieu d'écoute. Lieu d'écoute. Comment j'écoute la volonté de Dieu qui s'exprime? C'est ça. Hein, voilà, le vrai mot. Alors, c'est très beau. C'est très beau. Alors qu'obéir, on a l'impression que c'est toujours un coup de bâton qui va t'arriver derrière les oreilles. Non, non. L'obéir, c'est qu'est-ce que j'écoute et comment je vais mettre en œuvre ce que j'entends. Et moi, j'ai célébré, et j'avoue que ça a été pour moi un très fort moment spirituel aussi. Enfin, je tiens à le dire. Alors, il y a des mots, bien sûr, tout à l'heure, tu le disais, il y a des mots qui sont compliqués. Professe, profession. Ah ouais, profession. Ouais. C'est vrai que vous avez peut-être vu avant les élections les hommes politiques qui font leur profession de foi. C'est-à-dire dire ce qu'ils veulent proposer. Eh bien, quand on est religieux, on dit oui à ce que Dieu nous propose. C'est ça, faire profession. Alors, il y a un premier temps qui est pour limiter, et puis il y a un deuxième temps qui est pour toujours. Alors maintenant, on va écouter la dernière chanson, parce que je crois qu'on arrive à la fin, voilà, notre ami me fait signe. On écoute la dernière chanson, c'est « On a tous en soi quelque chose à dire, quelque chose à donner, quelque chose à avancer ». Et c'est une chanson religieuse de Cécile, et je ne sais plus comment il s'appelle, lui Klinger.
On a tous en nous un petit peu de Dieu, un brin d'amour divin au bout de nos mains. Que peut-il faire sans nous? On ne peut rien sans lui, comme un enfant sans père, comme un père sans son fils. On a tous en nous un petit peu de Dieu, un brin d'amour divin au bout de nos mains. Que peut-il faire sans nous? On ne peut rien sans lui, comme un enfant sans père, comme un père sans son fils. Alors tendons nos bras comme à un enfant, alors tendons nos bras inlassablement. Tendons nos bras, on a tous en nous un petit peu de Dieu, un brin d'amour divin au bout de nos mains. Que peut-il faire sans nous? On ne peut rien sans lui, comme un enfant sans père, comme un père sans son fils. Alors ouvrons nos cœurs comme à un ami, alors ouvrons nos cœurs à l'infini. Ouvrons nos cœurs, puisqu'on a tous en nous un petit peu de Dieu, un brin d'amour divin au bout de nos mains. Que peut-il faire sans nous? On ne peut rien sans lui, comme un enfant sans père, comme un père sans son fils.
Autour de la table, il nous reste à aller de l'avant. Alors les premiers seront les derniers. Merci Michel pour ta présence. Merci à Leïla, merci à Émilie, merci à Florent. Merci. Nous nous retrouvons le mois prochain pour l'heure du carillon. Voilà, on abordera un thème sans doute de société la prochaine fois. Des chrétiens qui parlent, des chrétiens du Villefranchois sur 90.2 CFM et puis sur Radio Présence à Figeac. Merci à tous.
Et merci pour la qualité de nos intervenants. Le père Florent, et puis Leïla, qui a pris la direction de mondiale des Sœurs de la Sainte Famille de Villefranche.
Ouais, alors ça fait bien, tu vois. Voilà. Villefranche-du-Rouergue, capitale du monde pour les Sœurs de la Sainte Famille. Merci à tous. Allez.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.